Bien, c'est parfait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, écoutez, bonjour à tous. Présentation étant faite, hein, j'en viens aiguille, ça devient presque une habitude, puisque j'étais là l'an dernier déjà pour votre ouverture, votre lancement de saison, si je puis dire, et j'ai eu plaisir à revenir effectivement pendant l'année vous voir à l'Assemblée Générale, en Conseil d'Administration, vos réunions de bureau. Le programme est chargé, y compris pour l'équipe dirigeante de l'Université pour tous de Bourgogne. Je viens simplement vous saluer parce que je suis pas là pour vous faire perdre du temps cet après-midi. Vous avez un planning chargé, aussi bien à 14h30 qu'à 15h. Et simplement, en tant que conseiller général départemental maintenant, du centre-ville de Châlons et vice-président du Grand Châlons chargé de l'enseignement supérieur, je voulais vous saluer au nom du maire de Châlons, Gilles Plâtrey, et du président du Grand Châlons, Sébastien Martin, qui peuvent pas bien entendu être là. Et puis vous doutez bien que si on prend les uns les autres et qu'on fait chacun un discours, finalement c'est plus la peine de faire un programme. Cet après-midi, vous auriez terminé bien bien tard. Blague à part, je voulais vous saluer pour vous redire à quel point la ville de Châlons et le Grand Châlons, et plus largement le Conseil Général, sont heureux de vous compter parmi nous chaque année, nombreux, voire même de plus en plus nombreux, pour affronter un programme chargé mais riche. On en parlait avec l'une des membres de votre bureau il y a quelques instants. Moi, je suis toujours admiratif de l'assiduité de chacun. Alors, commencez par le président, bien entendu. Je crois qu'il y avait 120...
100... 680.
Ah oui, mais pas par an. Hein.
Comment?
Pas par an. Par an en nombre de conférences, j'entends.
120.
120, hein, on est bien d'accord. 600... Parce que 680, 120, c'est déjà bien. 680, c'est surhumain.
Non, 680 adhérents. Oui. Et 120 conférences.
Mais 120 conférences par an. Et je dis que quand on est, parce qu'il y a presque que le président peut-être qui arrive à faire les 120 presque complètes, voire même complètes, même si on arrive à en faire que quelques-unes, tout l'intérêt, je trouve, d'Université pour tous, c'est de pouvoir piocher au gré de ses envies, de ses besoins de perfectionnement, de ses goûts personnels, pour telle ou telle matière et venir apprendre. Parce que, bien sûr, en tant que vice-président chargé de l'enseignement supérieur, je suis plutôt tourné vers l'université, vers les études post-bac, à Nieps ou ailleurs d'ailleurs, dans nos établissements du Grand Châlons. Mais la diffusion du savoir et l'apprentissage s'arrête pas aux frontières de l'université, s'arrête pas quand on est sorti du lycée ou du post-bac ou d'ailleurs. La transmission du savoir, c'est toute la vie. Et j'en parlais il n'y a pas très très longtemps devant des dirigeants du CNAM, qui eux aussi œuvrent pour la diffusion de la culture tout au long de la vie et faire en sorte que voilà l'apprentissage puisse se passer de façon extra-professionnelle ou professionnelle tout au long d'une carrière et même bien au-delà. Donc je suis très fier et très heureux de vous voir encore une fois nombreux. Alors je salue bien entendu les auteurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer avant cette prise de parole pour l'ouvrage qu'ils vont vous présenter tout à l'heure et qui lui aussi traduit bien ce que c'est que la diffusion de la culture scientifique en l'occurrence, et je ne doute pas qu'on saura peut-être encore plus tirer profit de cette belle œuvre, notamment je pensais au moment de la fête de la science et du village des sciences, puisqu'on a un partenariat déjà maintenant bien établi, malgré des difficultés économiques que vous connaissez et budgétaires qui font que chaque année, les uns les autres, toutes les collectivités, même jusqu'à l'État, sont obligées de rogner un petit peu sur les budgets. Mais grâce aux gens passionnés que vous avez à l'Université pour tous, grâce d'abord à votre président, M. Fournier, aux membres du bureau, tous les bénévoles que je salue d'ailleurs qui s'investissent ici même, et grâce aux conférenciers, vous avez, je crois, un enseignement, un apport culturel de très très haute qualité, et il faut absolument s'en féliciter, et c'est la raison pour laquelle moi je tiens à venir autant que possible lors de vos réunions, et notamment chaque année lors de la présentation de la nouvelle saison, pour vous remercier et vous dire que voilà, bon, les temps sont pas toujours faciles, mais faut s'accrocher, et c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à pérenniser de belles actions culturelles comme celle-ci. Alors poursuivez, bonne saison, bon courage, parce que il va y avoir, à mon avis, pas mal de choses à digérer encore cette année, mais c'est tout du bonus, c'est tout des bons moments, je pense, que vous passez ici. Alors passez une excellente année, et puis à très bientôt en vos murs, en vos locaux habituels, et puis ici même l'an prochain, je ne doute pas que je serai encore présent à votre invitation. Merci beaucoup.
Eh bien, nous enchaînons tout de suite sur la présentation. Donc, je vous présente Monsieur Manuel Bonnet. Il va dire qui il est, d'où il vient, au sens de généalogique du terme. Voilà. Manuel.
Merci, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, merci. Arrière-petit-fils de l'arrière-petite-fille de Joseph Nicéphore Niépce, tic, 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 six générations, je m'intéresse à lui depuis fort longtemps. 33 ans, pour être précis. À l'origine, c'était en vue d'une série télévisée. Assez vite, le flou qui entourait le personnage et son œuvre me donna envie de tout mettre à plat. Il y en a dans le... Séduit par le charme des manuscrits, celui des brouillons, notamment, si bavard sous les ratures, je me suis pris à rêver de la compilation intégrale des originaux, en photocopie, je vous rassure, de la correspondance et des papiers de l'inventeur. Des centaines de pièces. C'est alors que j'ai rencontré le chercheur du CNRS Jean-Louis Marinier, spécialiste en chimie sous rayonnement, et en particulier des phénomènes chimiques ultra rapides. Dans le cadre du 150e anniversaire de la divulgation de la photographie en 1989, il venait de réaliser et de publier la première reconstitution historique expérimentale mondiale de l'héliographie. Jusqu'en 1992, il reproduisit la totalité des procédés de Niépce tombés dans l'oubli. Fait unique dans l'histoire des inventions, celle de la photographie, jusque-là dévoyée, fut démontrée étape après étape, réécrite de A à Z. On ne le dit pas assez, c'est à Marinier et à lui seul que le Chalonnais Nicéphore Niépce doit sa juste place dans l'histoire des sciences. Et je ne parle ici que de photographie. Marinier, lui aussi, s'était exclusivement appuyé sur les manuscrits. À la virgule près, et ce n'est pas un vain mot, c'est tout au contraire de maître mot qu'il faut parler. Laissez parler les petits papiers, papiers d'État, papier de famille, papier secret, papier brouillon, m'a toujours paru le plus sûr moyen d'approcher la vérité. Sur le moteur à combustion interne de 1806, aussi bien que sur l'héliographie de 1824. Avec Jean-Louis Brulet, agrégé de génie mécanique, qui connaît particulièrement bien le pyréolophore, nous avons souvent envisagé une publication qui, grâce à tous ses papiers et à son approche de mécanicien, mettrait en évidence les caractéristiques visionnaires, prophétiques, je crois qu'on peut le dire, du gros brutal. Je n'invente rien, je cite les frères Niépce, en l'occurrence l'aîné, Claude. Le hasard ayant bien fait les choses, c'est sous les heureux auspices du musée Maison Niépce de Saint-Loup de Varennes, j'insiste, musée Maison Niépce de Saint-Loup de Varennes, que nous nous sommes jetés à l'eau, il y a 2 ans, immédiatement rejoint et épaulé par l'UTB. Aussi, lorsque l'an dernier, le service des commémorations nationales m'a fait l'honneur de me demander quelques lignes pour son recueil 2015, en vue du 250e anniversaire de la naissance de Nicéphore, Jean-Louis et moi n'avons pas hésité un seul instant à annoncer pour cette année la parution de notre essai édité par l'UTB. Il y a des coups de pouce du destin qu'on s'interdit de laisser filer. Voilà. Merci.
Alors, vous avez compris que ce livre est essentiellement historique. Je vous rassure, je rassure beaucoup de personnes ici, je ne vais pas détailler le principe de fonctionnement du moteur à combustion interne. Je vois déjà des yeux effarouchés. Non, notre ambition était surtout d'attribuer à Niepce la paternité d'une des inventions majeures du siècle des Lumières, que sont le moteur à explosion et la propulsion par réaction. C'est quand même pas un détail. Hein. Tellement les biographies existantes étaient floues, voire malhonnêtes, etc. Donc tout ça fait l'objet du livre. Pour ce faire, il faut définir plusieurs choses. Il faut définir ce qu'est une invention. Ça aussi, c'est pas si simple que cela. Une invention, est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est l'obtention d'un brevet? Est-ce que c'est la fabrication d'une machine qui fonctionne réellement? Tout ça mérite discussion. Il faut savoir notamment qu'en Angleterre, les brevets se donnent sur des idées, sur des principes, sur toutes les idées loufoques, sans aucun contrôle ni rien. C'est leur philosophie, en disant dans tout ce magma, il y aura bien une idée géniale qui va apparaître et qu'on aurait supprimé si on avait vraiment été trop rigoureux. En France, c'est pas du tout ceci. On ne peut pas breveter une idée, on ne peut pas breveter un principe. Il faut réellement qu'il y ait des plans et qu'il y ait une machine qui fonctionne. Alors, effectivement, dans notre recherche, on a trouvé un Suisse, Isaac de Rivaz, l'inventeur du moteur explosion, comme c'est dit à Martigny, à la fondation Giannada, si vous y êtes allé, vous regarderez de plus près. D'accord, c'est pas dans les tableaux, c'est en dessous, vers les voitures anciennes. Hein. Et effectivement, son brevet est un petit peu antérieur de quelques mois à celui de Niepce. Donc, les Suisses l'ont baptisé inventeur du moteur explosion. Et tous nos travaux de recherche ont permis d'établir que de Rivaz n'a jamais rien fabriqué, il le reconnaît lui-même, il le dit lui-même dans ses lettres, que l'on publie. Donc nous, on a vraiment laissé parler les documents. Voilà, on est très peu intervenu en jugement de valeur, on laisse parler les documents. Et là, donc une invention, pour nous, c'est vraiment que quelqu'un qui a fabriqué un objet qui fonctionne, qui remplit sa fonction. Celui des Niepce, en l'occurrence, est vraiment le premier qui ait fonctionné. Il faut également définir ce qu'est un moteur. Ça paraît aussi simple. L'idée d'utiliser la force motrice d'une explosion, bien sûr, c'est bien antérieur à Niepce. Hein. Depuis qu'on fait des canons et des fusils et qu'on a de la poudre à canon, le principe est démontré. L'utilisation de l'explosion de gaz, c'est déjà plus récent. C'est Montgolfier. Et on trouve une biographie de quelqu'un qui dit Montgolfier, l'inventeur du moteur explosion. Non, il a seulement eu l'idée d'utiliser la force motrice d'une explosion de gaz pour avoir un effet utile. Je reprends les termes de l'époque. La machine de Niepce est la première qui ait fonctionné. Alors, un moteur, c'est pour nous, pour tout scientifique, c'est une machine qui fonctionne en cycle continu, de façon automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine entre deux explosions. C'est-à-dire qu'il alimente lui-même l'explosion suivante. Alors que beaucoup de machines existantes, imaginez qu'on mette un canon sur un chariot, on envoie un boulet et on utilise la force du recul pour avancer, ça n'est pas un moteur. C'est un principe moteur, c'est tout. Donc voilà toutes ces définitions qu'il a fallu préciser. Et j'espère que ce livre, jusqu'à preuve du contraire, va rétablir Niepce à la juste place qu'on lui doit. Voilà, je vous remercie.
Alors pour le reste de la présentation, évidemment, on m'a demandé de parler d'un livre que j'ai longuement parcouru, puisque j'ai participé à sa mise en forme, qui était extrêmement sophistiquée, mais je vais en dire quelques mots pour savoir un petit peu plus dans le détail qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage. Donc il y a quelques exemplaires ici, après la séance, on ne va pas faire de break, hein, on va enchaîner tout de suite sur la présentation des conférences, mais à la fin, si vous souhaitez, vous pouvez venir jeter un coup d'œil sur les exemplaires que j'ai apportés. Alors voilà les quatre planches que je vous ai montrées pendant le discours de Jean-Louis. Ce sont les planches qui ont été dessinées et peintes par les Niepce en annexe de leur dossier de brevet. Donc Jean-Louis Brûlé, ben voilà, son CV extrêmement simplifié. Alors, je rappelle, il ne l'a pas dit parce que c'est un grand modeste, hein, c'est pas un gros brutal. Il a reconstitué 200 ans après les premiers essais sur la Saône, puisque ce moteur a été essayé sur la Saône en 1806. Il a fonctionné devant le public et ça fait l'objet de comptes rendus dans les correspondances de l'époque. Donc 200 ans après, en 2006, avec une équipe d'étudiants et de professeurs du lycée Niépce, on n'échappe pas au Niépce. Donc la prof, comme on disait à mon époque, donc ils ont reconstitué avec quelques composants modernes Pyréolophore, c'est-à-dire toute la partie automatisme a été faite avec des composants modernes, mais par contre la partie vitale, c'est-à-dire la chambre d'explosion, la chambre d'allumage, la cheminée, l'échappement, les tuyères d'échappement ont été reproduites fidèlement donc dans ce bateau. Et extraordinaire, 200 ans après, il a à nouveau fonctionné. Voilà. Alors, il y a un petit dessin ici qui est dans l'ouvrage qui dit, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, voilà comment ça marche. Donc je ne dis rien. Vous voyez, vous comprenez le principe du système. Et maintenant, donc, une des images, donc nous avons fait un petit, ce qu'on appelle un cinéma de fonctionnement, comme les moteurs à quatre temps, si vous voulez. On décrit toutes les phases avec les fonctions de chacun des composants du système pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, à nouveau, je me garderai bien de vous expliquer comment ça marche. Je n'ai pas mis toutes les images. Et deuxièmement, vous achetez le bouquin pour, si vous voulez savoir comment ça marche. Voilà. Alors, d'une façon très synthétique, quel est le contenu de cet ouvrage ? Donc, les origines de l'ouvrage, eh bien, c'est le discours que vient de vous faire Manuel Bonnet, beaucoup plus détaillé, et qui vous donne les tenants et les aboutissants, par quel parcours il est passé pour arriver à l'idée de composer cet ouvrage. Ensuite, nous avons obtenu, il en est très fier, une préface d'Olivier Pironneau, qui est un polytechnicien qui est à l'Institut, l'Académie des sciences, hein, dans le groupe, enfin la classe de mécanique, comme on dit, hein, et donc qui a fait une préface tout à fait louangeuse sur cet ouvrage. Une préface du maire, bien entendu, puisque Niépce est attaché à la ville de Châlons. Et ça, c'est un petit peu à ma demande expresse. Pour faire une piqûre de rappel, j'ai demandé à Manuel Bonnet de refaire une biographie synthétique des Niépce, parce que très peu de gens savent qu'il avait un frère aîné. Donc cette invention, c'est bien une invention des deux frères, de la fratrie. Et donc on connaît Nicéphore Niépce grâce à l'invention de la photo. On a un peu oublié, sauf les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, l'existence de son frère aîné, Claude. Donc c'est en 20 pages et c'est très intéressant. En plus, cette biographie, elle n'est basée exclusivement que sur des analyses de documents, papiers, lettres, correspondances, qui ont été rassemblées par Manuel dans un ouvrage qu'il a publié avec la Maison Niépce en 2003. Il est épuisé, hein. Pas lui, lui il ne l'est pas encore, mais ça, on y arrive. donc on a vraiment un corpus documentaire tout à fait considérable et sur lequel on peut s'appuyer, il a pu s'appuyer pour composer son ouvrage. Donc le bouquin se poursuit ensuite par les textes fondateurs, c'est-à-dire le texte intégral du brevet avec l'explication du fonctionnement tel que l'ont rédigé les Niépce, et ensuite la fameuse note de Carnot, d'une part celle de Berthollet qui était la note préparatoire et celle de Carnot qui était lue à l'Institut en 1807, donc quelques mois après le dépôt du brevet, pour vanter l'intérêt et la nouveauté de cette machine, et en disant en substance, eh bien continuez les gars, il y a du matériau et continuez vos mises au point. Il faut savoir que la famille de Carnot, Lazare, hein, c'est Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, était très lié, même par des liens familiaux, à la famille des Niépce. Je rappelle que Lazare Carnot est originaire de Nolay. Hein. D'ailleurs, incidemment, j'annonce à nouveau que nous allons sortir un livre synthétique et pluridisciplinaire sur la vie de Lazare Carnot. Et ça va sortir, je pense, début décembre. On l'a pratiquement fini. Donc, évidemment, on mettra en référence dans cet ouvrage celui-là. Ensuite, on a donc l'explication détaillée du fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure avec les petits dessins dont j'ai montré un exemple. Et ensuite, donc, on rentre dans le corps de l'ouvrage, c'est l'analyse historique de tous les écrits sur l'invention jusqu'à la fin du XXe siècle. Et là, la fortune et la célébrité de l'invention, elle est passée par des hauts et des bas, et on a dit aussi beaucoup de bêtises dans un certain nombre de documents, soit des bêtises par recopie malhabile de documents les uns sur les autres, soit pour des raisons moins avouables, parce qu'on voulait un petit peu effacer la mémoire de l'apport des Niépce. Donc tout ça est expliqué dans l'extrême détail et c'est appuyé sur des extraits très larges des correspondances des documents. Et donc on met en exergue en particulier un certain ingénieur, l'ingénieur Clerget, qui était un Dijonnais, qui était considéré comme le meilleur ingénieur motoriste d'aviation, disons, à la fin de la guerre 14-18, enfin entre les deux guerres, et qui a rendu justice à cette invention en disant « mais ils avaient tout compris et ils étaient vraiment... c'était une invention prophétique, si vous voulez. Par contre, pourquoi elle a disparu, pourquoi elle n'a pas eu le succès qu'on pouvait imaginer, ben deuxièmement, premièrement, c'est le succès de la machine à vapeur qui a occulté les machines à explosion et à combustion interne. Et deuxièmement, le fait que les Niépce, l'affaire a tourné en eau de boudin du fait de l'exil de Claude en Angleterre, qui est parti dans des divagations sur le mouvement perpétuel, qui a dépensé toute la fortune des Niépce, et le pauvre Nicéphore qui était resté à la maison, il n'a plus que... essayer de limiter la casse en payant, en faisant des hypothèques et en essayant de limiter la décadence financière de la famille Niépce. Et vous verrez dans la biographie que l'origine de la découverte de la photographie, qui a lieu 20 ans après, elle vient du pyrolophore. Elle vient des recherches sur les différents types de combustibles qui avaient été essayés. Ils ont tout essayé. Et dans ces combustibles, il y avait le bitume de Judée, qu'on appellerait aujourd'hui le pétrole ou le gazole. Et Nicéphore a constaté l'effet photosensible du bitume de Judée. D'où toute la succession ensuite de ces travaux qui ont conduit à la mise au point de ce qu'on appelle la photographie, c'est-à-dire la première image capté, conservé et fixé. C'est ça la définition de la photographie. Évidemment, le procédé Niépce est inutilisable pour faire des photos, mais le concept était acquis. Et ensuite, il y a eu toutes les étapes postérieures pour la mise au point de la photo chimique telle qu'on la connaît. Bon, je termine, ça a été évoqué. Donc, le fait Isaac de Rivas, qui était un contemporain suisse, des Niépce, d'ailleurs, qui a eu une correspondance avec eux. Donc, c'est plutôt les Niépce qui ont dit, écoutez, on travaille sur notre affaire, là, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce que l'on fait. Et donc, et Isaac de Rivas, qui avait commencé sans savoir l'existence des Niépce, s'est affolé en disant, oulala, il y a des gens qui m'ont piqué mon idée, oulala, il faut absolument que je fasse un forcing extraordinaire sur le bureau des brevets à Paris. Vous voyez, j'ai quand même lu le bouquin. Hein. Donc, c'est clair, c'est une enquête policière. C'est un bouquin qui est passionnant parce que on voit toutes les arcanes, toutes les manœuvres des uns et des autres, soit pour gommer ou effacer une partie de la vérité, soit pour s'attribuer des idées que d'autres ont eues. Ça, c'est un classique de l'histoire des techniques. Les manœuvres, disons, de copiage ou de aider les batailles entre les inventeurs, etc., ça date de la nuit des temps. Mais on en a encore un exemple. Et aujourd'hui encore, même dans l'histoire des techniques et dans l'histoire des sciences, ces phénomènes, même aujourd'hui, d'une façon tout à fait contemporaine, existent encore, contrairement à ce qu'on dit dans la grande presse, en disant les scientifiques sont des gens honnêtes, intellectuellement, rationnels, etc. C'est enregistré, mais on ne diffusera pas, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc voilà d'une façon très synthétique quelle est la teneur de cet ouvrage. Et la raison pour laquelle on a pris ça, d'abord ça nous a beaucoup intéressé. Il se trouve qu'à titre personnel, moi j'avais déjà lu beaucoup de choses sur la vie des Niépce. Et donc ça m'a rappelé des choses, si vous voulez. Et comme on travaillait simultanément sur Lazare Carnot, on a vu des connexions, si vous voulez, entre le travail d'Emmanuel Bonnet et des choses qu'on avait faites nous-mêmes. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Donc féliciter, non pas l'UTB, il a fait le boulot matériel, mais féliciter les deux auteurs qui ont fait un travail absolument titanesque. Vous le verrez en appréciant le contenu de l'ouvrage, et qui aura, à mon avis, un grand impact dans l'histoire des techniques. Voilà, merci. Donc, je vous propose d'enchaîner sans entracte sur l'objet principal de la séance d'aujourd'hui. Alors déjà, je pose la question rituelle à la salle. Qui n'est pas adhérent à l'UTB? Levez bien. Voilà, c'est bien. Donc je rappelle que cette séance, elle a quand même pour objectif de faire connaître l'UTB aux gens qui ne sont pas adhérents. Et j'espère qu'après une heure et demie de mon exposé, soyez patients, vous serez convaincus de venir nous rejoindre. Voilà. Donc cet exposé, c'est celui que j'avais déjà fait. Traditionnellement, je fais un exposé au mois de mai à la fin de la saison précédente pour annoncer ce qui va se passer. Et là, je le fais au début de la nouvelle saison pour rappeler un petit peu le contenu de nos programmes. Donc je rappelle que notre activité principale consiste à proposer des conférences culturelles avec un spectre de disciplines tout à fait varié. Donc je passe très vite sur les généralités. Voilà. Alors, depuis quelques années, nous essayons de faire des thèmes transversaux. Que sont les thèmes transversaux? Ce sont des thèmes qui sont abordés par différents conférenciers. Bon, histoire de l'art, c'est quand même le socle de notre programmation. Là, on a 7 ou 8 conférenciers différents. Et donc, c'est intéressant parce que quelquefois, d'une année sur l'autre, on a un petit peu les mêmes artistes ou les mêmes œuvres qui sont analysées par des conférenciers différents. Et on voit chaque conférencier a sa sensibilité et sa façon d'analyser telle ou telle œuvre. Et donc, le grand axe de l'histoire de l'art, ça continuera à être les impressionnistes, puisque là, on a un réservoir quasi inépuisable d'artistes qui méritent d'être analysés. Alors, on continue sur le 19e siècle. On avait déjà commencé l'an dernier de parler du 19e siècle dans certains aspects. Le 19e siècle, c'est long et c'est varié. Enfin, le 19e siècle en France. Et on a pris un sous-thème très important, c'est tout ce qui tourne autour de la découverte de l'Égypte. Nous sommes quand même dans une ville qui a ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Égypte.